Dans l'actualité des idées aujourd'hui, droits de l'homme et francophonie, avec notre invitée depuis midi, Leïla Slimani, représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie, auteure au rayon enquête non-fiction de Sexe et mensonges aux arènes et de Simone Veil, mon héroïne, aux éditions de l'Aube. L'écrivaine qui préside par ailleurs le jury documentaire du Festival du film international sur les droits humains, le FIFDH, dont la 17e édition se déroule en ce moment à Genève jusqu'au 17 mars. Rebonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Now is not the time to give up. Ça, ce sont les mots d'Evdokia Romanova, militante féministe russe, qui ont été mises en exergue de ce festival qui se tient en ce moment à Genève. Pourquoi est-il urgent, selon vous, aussi de ne pas renoncer ?
Vous savez, là, je viens de passer donc une semaine à regarder ces documentaires, et ce qui est extraordinaire et un peu triste aussi, un peu désespérant, c'est de se rendre compte de l'actualité de tellement de combats. Combats contre la mise en esclavage des femmes, des migrants, combats contre les génocides, par exemple celui des Yézidis à travers le documentaire sur Nadia Mourad. Combats évidemment pour les droits des femmes, combat aussi pour la dignité chez tous ces gens qui, aujourd'hui en Europe, en Angleterre, en France ou partout ailleurs, se battent pour leur reconnaissance et pour être traités avec plus de respect et plus de dignité. Donc oui, il y a urgence, comme il y avait urgence avant et comme il y aura sans doute urgence demain, parce que malheureusement, la mise à mal des droits humains est toujours d'actualité et je crois sans pessimisme qu'elle le sera encore malheureusement dans les années qui viennent.
Voilà, beaucoup de films qui sont présentés actuellement dans le cadre de ce festival. Vous en avez cité un certain nombre, en tout cas les thématiques abordées. On peut aussi évoquer Les tombeaux sans nom de Riti Pan ou encore Léa Tsemel, avocate, le parcours d'une avocate israélienne dans son combat pour la cause des Palestiniens. On va commencer à ouvrir le rideau qui cache l'écran avec le documentaire de Alexandria Bombach qui vient d'être présenté pour la première fois en Suisse dans le cadre donc du FIFDH. Il fait le portrait de la jeune Yézidi de 23 ans, aujourd'hui prix Nobel de la paix 2018. Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle de Daesh, voix d'un peuple au bord de l'anéantissement. Extrait.
Only hope for all of us, Miss Nadia Mourad.
And when you think about the men who raped you, what do you want to happen to them?
Did you try to resist? Could you tell him no?
They killed your mother as well.
What happened to the women? What happened to you?
Afsalid was sad.
Ce ne sont pas des questions auxquelles je veux répondre. Voici les questions que j'aimerais que l'on me pose. Que devons-nous faire en faveur des droits des Yazidis? Que pouvons-nous faire pour que les femmes ne soient plus victimes de guerre? Voilà les questions auxquelles je veux répondre.
Voilà, c'est une trajectoire de vie que raconte ce film « On Her Shoulders » d'Alexandria Bombach. C'est aussi le lourd tribut payé par les femmes yézidis que montrent ces images. Et c'est enfin la pression médiatique qui pèse sur cette figure de la jeune Nadia Mourad que montre ce film. Elle est devenue prix Nobel de la paix l'an passé. Pour faire changer les choses, vous pensez, Leïla Slimani, qu'il faut des figures héroïques comme elle, des incarnations.
C'est pas seulement qu'il faut, c'est que surtout on doit remercier ces figures-là. Moi, ce qui m'a vraiment frappée, ce qui continue à me frapper aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte que chaque chose que l'on gagne, notamment dans le combat pour les droits des femmes, chaque chose que l'on gagne, on la gagne parce qu'il y a des femmes, parfois des hommes, qui ont payé ces combats de leur vie. Des gens qui croupissent en prison, des gens qui sont condamnés à des peines terribles, des gens qui font des grèves de la faim. Je voudrais là parler, par exemple, de Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne qui a été condamnée il y a deux jours à 33 ans de prison, 148 coups de fouet. Une femme comme celle-là, c'est grâce à des femmes comme ça que l'on gagne des combats. Donc ces héroïnes-là, non seulement nous avons besoin d'elles, mais nous avons besoin aussi de saluer leurs combats, de les soutenir, d'être auprès d'elles et de ne jamais les abandonner.
Et ces images, ces films vont circuler dans le monde entier. Ils sont aujourd'hui, on peut voir ce film à Genève, mais le film est amené à avoir une portée internationale. Est-ce que dans son pays, est-ce qu'on pourra aussi voir ce film? C'est des questions qui restent parfois en suspens. Vous pensez que le cinéma peut faire changer les choses?
Oui, je crois que l'image, elle avait quand même une force extraordinaire. Ce film, par exemple, c'est un film extrêmement riche parce qu'il interroge beaucoup de choses. Il interroge les médias et l'espèce d'obscénité parfois que peuvent avoir les médias vis-à-vis d'une figure comme celle de Nadia Mourad. On voit pendant de longues minutes des journalistes l'interroger de manière très précise sur les viols qu'elle a subis. Et donc ça pose aussi cette question, est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'à l'obscénité pour que les gens s'intéressent à vous? Est-ce qu'il faut raconter jusque dans les détails les viols qu'on a subis pour devenir une icône de la cause féministe et pour pouvoir représenter son peuple? C'est assez désespérant d'une certaine façon ce que raconte ce documentaire, mais oui, moi je crois que le cinéma peut faire changer les choses, déjà parce qu'il nous informe simplement. Il y a beaucoup de ces documentaires qui parlaient de situations dont je ne connaissais rien ou très très peu, et le fait de pouvoir creuser, passer une heure et demie dans ces pays-là auprès de ces gens, écouter les différents points de vue, c'est évidemment enrichissant, et puis ça nous indigne, et puis l'indignation elle peut être le moteur après de l'action.
Et au-delà de cette fascination malsaine, parfois collective, de cet attrait qu'on peut avoir à entendre, lire, regarder ces images ou ces récits, il y a aussi à travers elles la possibilité de mettre un visage sur ces situations. On le voit aujourd'hui avec une autre figure iconique d'un autre combat, c'est la jeune Suédoise Greta Thunberg pour le climat, une force de mobilisation à travers cette jeune Suédoise qui a lancé son appel tout juste 16 ans. Demain, les jeunes manifesteront un peu partout dans le monde derrière cette voix, celle de Greta Thunberg. Sur le sentiment européen, Leïla Slimani, aujourd'hui, c'est presque la mode d'être contre l'Europe, avez-vous dit à Libération. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Europe ne fait plus rêver?
C'est une question que je me pose souvent, mais peut-être aussi parce qu'elle a échoué elle-même à incarner les valeurs qu'il a fondées. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas continuer à survivre sans cohérence. Je pense que les valeurs d'ouverture, les valeurs de mixité, les valeurs de cosmopolitisme aussi que l'Europe a voulu incarner après-guerre. Moi, je relis en ce moment beaucoup des textes de Stefan Zweig, des textes qu'il a écrits à la fois juste après la Première Guerre mondiale et puis ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il sent bien que l'Europe ne peut vivre, ne peut exister que si elle est à la hauteur des exigences qu'elle ne cesse de proclamer, que si finalement elle est véritablement cette espèce de phare pour le monde qu'elle voudrait être, en tout cas sur le plan des valeurs. Moi, venant du Maghreb, je me souviens très bien dans les années 80-90 la vision qu'on avait de l'Union européenne, de cette construction. Je me souviens du roi Hassan II qui à l'époque était allé dans le bureau de Jacques Delors avec des architectes, et on raconte, c'est pas une légende urbaine, mais bon, après on a rajouté des détails, mais il voulait construire un pont à cette époque entre le Maroc et l'Espagne. Et donc il y avait cette idée d'un territoire qui pouvait s'étendre, et territoire qui serait un territoire des droits humains, justement, favorable aux minorités, favorable à l'ouverture. Ce qu'il en reste aujourd'hui est quand même incroyable, et on a presque l'impression qu'aujourd'hui, l'avenir de la liberté s'écrit plus sur le versant sud de la Méditerranée que sur le versant nord.
On va y revenir, un pont qui aurait enjambé la Méditerranée. Alors parmi les films sélectionnés et présentés en ce moment à Genève, il y aura Strange Fish de la journaliste Giulia Bertoluzzi, dont le titre s'inspire d'une chanson de Billie Holiday, Strange Fruit, des images qui ont été tournées dans la ville tunisienne de Zarsis, à la frontière libyenne, et qui montrent le quotidien des pêcheurs en mer, à la fois du secours qu'ils portent malgré eux, hein, ou grâce à eux, aux migrants, jusqu'aux corps flottants qu'ils ont découverts et pour lesquels ils n'ont souvent rien pu faire.
Les cadavres, ça ressemble tous. C'est un bout blanche, salée, c'est tout. C'est pas n'importe qui peut enterrer des gens comme ça. Il y a des gens qui ont peur de quelqu'un mort. Moi, je me dis, on peur que de vivants, pas de morts. Parfois, je dis, je vais pas. Mais il y a quelque chose qui me tire et je vais. Et tu trouves devant un corps, vraiment, tu pleures parfois lorsque tu vois des corps. Jusqu'à maintenant, il y a des familles en Afrique qui attendent leur fils, leur père, leur fille. Mais ils sont ici, ils sont enterrés. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree.
cette Méditerranée que nous montre ce documentaire Strange Fish est-elle en train de devenir le miroir de l'Europe que vous décriviez, d'une Europe qui n'a plus d'âme, qui ne fait plus corps, qui ne protège plus, qui ne sait plus accueillir aussi?
Ah, il y aurait tant à dire sur cette mer. Moi, je crois que cette histoire des migrations, des migrants, c'est la grande tragédie de notre temps, qu'on a du mal à la fois à comprendre, à raconter, mais qui sans doute restera grand stigmate de notre époque pour les prochaines générations lorsqu'elles verront ce que nous avons fait. Oui, moi j'ai été toujours très familière finalement de cette histoire parce que je viens d'un pays d'où les gens ont envie de partir. C'est une réalité, même si beaucoup de Marocains, notamment les autorités, n'aiment pas entendre ça. Mais c'est une réalité. C'est un pays d'abord qui est traversé par les migrants africains. Moi, j'ai le souvenir que dans la propriété de ma grand-mère, mes grands-parents venaient à habiter à Meknès. Et un jour, les ouvriers qui travaillaient sur la ferme ont trouvé le corps d'un homme. Un homme d'Afrique subsaharienne, noir, qui n'avait pas de papier, qui n'avait pratiquement pas de vêtements et qui était mort là de faim. Et personne n'a jamais su d'où cet homme venait, personne n'a jamais su son nom. Donc on l'a fait enterrer, il avait un petit bracelet avec une croix, donc on a supposé qu'il était chrétien. On a trouvé quelqu'un pour l'enterrer sans connaître son nom, son histoire, sans jamais pouvoir prévenir les gens qui l'aimaient et qui attendaient peut-être son retour. Donc c'est une tragédie absolument atroce que celle de ne pas pouvoir partir, de ne pas pouvoir changer de vie. Fatema Mernissi, qui est une grande sociologue marocaine, écrivait que lorsqu'on ne peut pas quitter l'endroit où on est du côté des faibles. C'était le cas des femmes dans les harems, le cas des femmes cloîtrées dans une bonne partie du monde. C'est le cas des migrants. Je crois que c'est quelque chose que l'on a en partage et c'est évidemment tragique.
Et c'est là où ces pêcheurs tunisiens sont particulièrement émouvants dans ce documentaire, c'est qu'ils vont prêter secours quand ils peuvent à ces hommes, alors que ce n'est pas leur métier. Ils n'ont aucun moyen vraiment à mettre à disposition de ces personnes. Mais il y a une forme de solidarité, d'hospitalité aussi qui se crée entre eux. Quand mettrez-vous les sans-papiers hors de chez nous? Vous vous souvenez probablement de cette phrase qui a été prononcée à Verdun à l'automne dernier, interpellée par un ancien combattant. En ces termes, le président Emmanuel Macron répondait « Ceux qui n'ont pas de papiers et ceux qui n'ont pas le droit d'asile, on va continuer le travail. » Il fallait peut-être entendre cet échange pour se rendre compte à la fois de la froideur ou de l'impersonnalité de ce moment. Vous avez, vous, déploré la réduction du langage et la simplification de la pensée sur cette question. Ni angélisme, ni diabolisation. Comment essayer de traiter de ce sujet? Comment le penser? C'est d'humanité ou de complexité dont on manque sur cette question pour vous, Leïla Slimani?
Les deux, parce que je crois que la complexité, c'est justement la reconnaissance de l'humain. Moi, c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que j'aime tellement la littérature, parce que la littérature, elle fait le pari de la complexité, elle dit un être humain n'est jamais quelqu'un qu'on peut résumer, un être humain est toujours compliqué, il est toujours un mystère, il y a toujours quelque chose en lui qui nous échappe, donc pour moi, c'est une forme de respect que la complexité. Vouloir réduire, vouloir expliquer, vouloir simplifier, c'est bien souvent le fait des régimes les plus durs et les plus fascisants. Quand vous regardez les grands régimes fascistes, ce sont des régimes où on met des cases et puis chaque personne est dans une case selon sa race, son sexe, etc. Donc moi je crois que non, la complexité et l'humanité vont toujours de pair. Mais pour ce qui est de cet échange, là encore il faut avoir une pensée complexe. Je n'accusais pas du tout Emmanuel Macron de racisme parce que je sais qu'il ne l'est absolument pas, et donc ça n'est pas le cas. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que les mots ont une importance et que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas de papier qu'ils n'ont pas le droit au respect et qu'ils n'ont pas le droit au respect de leur dignité. Ça n'est pas parce qu'on n'a pas de papier qu'on n'a pas de visage, qu'on n'a pas une âme, qu'on n'a pas des difficultés et j'ai très très peur de ça, que dans nos sociétés aujourd'hui, on a l'impression que celui qui n'a pas de papier peut être traité comme portion congrue, voire vraiment être traité comme quelqu'un qui n'existe pas, comme un objet. Donc c'est contre ça que je m'élevais à ce moment-là. Et puis les mots ont un poids, les mots ont un sens, les mots ont une utilité, donc il faut être à la hauteur des mots.
Et ces mots, cette lecture de la situation, est-ce qu'elles imprègnent aussi la loi asile-immigration pour vous qui a été votée à la rentrée dernière.
Mais là aussi, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à cette question de l'Europe. Le grand problème, c'est qu'on ne pourra jamais résoudre cette question si on ne s'entend pas. Ça n'est plus du tout un problème, les faits sont là, c'est plus un problème national. Aujourd'hui, c'est un problème qui ne pourra se régler que si tout le monde se met autour d'une table et qu'on arrive à un moment à traiter avec humanité et pas seulement avec pragmatisme et pas seulement en se rejetant la patate chaude les uns aux autres. C'est un problème qui est un problème global et qui d'ailleurs n'est pas seulement un problème européen, qui est aussi un problème turc, qui est aussi un problème marocain, qui est aussi un problème libyen, parce que chacun finalement essaye de négocier là-dedans sa petite part. Les uns sont les gendarmes des autres. Donc c'est ce cynisme là qui est terrible. Et les pays du Sud aussi ont leur mot à dire, parce que ce sont leurs populations qui meurent aussi sur leurs rives. Donc c'est une problématique beaucoup plus large que simplement voilà sur le plan national.
Une problématique et un diagnostic comme celui du défenseur des droits Jacques Toubon, qui a alerté sur cette situation des droits des étrangers dans son rapport qui vient d'être rendu. Il dit que la France mène une politique essentiellement fondée sur la police des étrangers, reflétant une forme de criminalisation des migrations. Ce qui vaut pour la France vaut pour vous les
Etats-Unis. Ah oui, ça vaut pour ailleurs, hein, malheureusement. Oui.
Ouais. Sur ces questions-là, il y aurait aussi beaucoup à dire. On peut peut-être essayer de voir ce qui se joue quand même chez nous dans nos frontières. Je reste attachée à ce rapport du défenseur des droits, Jacques Toubon, ce réquisitoire presque annuel contre aussi la politique sécuritaire mise en place face aux troubles sociaux et menaces terroristes. Voilà ce qu'a évoqué Jacques Toubon, qui parle d'un repli sur soi de la France, d'un pays crispé. On le dit de la France aujourd'hui, on pourrait le dire de la Hongrie, on pourrait le dire de l'Italie. C'est un phénomène là encore européen. Et on peut revenir aussi à cette mise en cause par l'ONU de la France pour usage excessif de la force, qui va de pair avec ces mots de Jacques Toubon lors de les manifestations des Gilets jaunes. On va écouter Michel Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies.
En France, les Gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force.
Voilà, la France qui n'a pas tellement l'habitude de se faire taper sur les doigts dans ces conditions-là. Mais, une fois encore, est-ce que tout ça ne reflète pas un climat global ?
Oui, je crois. D'ailleurs, c'était assez intéressant de voir dans ce panel de documentaires là que j'ai regardé à Genève. Il y avait d'une part beaucoup de documentaires sur les femmes, les droits des femmes, notamment en Syrie. Il y avait cette Nadia Mourad, la Yézidi, un autre documentaire sur la guerre. Et les documentaires qui se penchaient plus sur le monde occidental, sur l'Ouest, c'était beaucoup des documentaires justement là-dessus, sur ces gens appartenant aux classes ouvrières, aux classes populaires, qui se rebelles contre le pouvoir. Sur la police aussi, il y a un documentaire qui s'appelle L'Époque, dans lequel cette question des violences policières est à plusieurs reprises abordée. Et oui, bien sûr, il y a ce sentiment d'indignité exprimé différemment selon les pays. Dans certains pays, l'indignité vous pousse à la révolution. C'est ce qu'on appelle le hougra en Algérie, en Tunisie. Elle vous pousse à prendre un bateau pour aller ailleurs chercher votre dignité. Elle vous pousse dans la rue face à votre gouvernement pour demander à être traité avec plus de respect. Donc c'était assez intéressant et assez stupéfiant de voir finalement les différentes expressions dans le monde de ce sentiment d'indignité.
Et les documentaires présentés rappellent pour certains d'entre eux aussi le pouvoir de la culture dans ces situations-là. On ne le répétera peut-être jamais assez. Et on va prendre un autre exemple, celui du documentaire A Northern Soul, nommé Ville de culture pour une année, la cité industrielle de Hull, au nord de l'Angleterre. Le réalisateur Sean McAllister a suivi un magasinier le jour qui est complètement fan de hip-hop et qui rêve de transformer un vieux camion en Beats Bus itinérant pour faire slam des enfants des quartiers pauvres de cette cité-ville industrielle britannique. Extrait à voir, on va écouter un extrait, mais on peut voir aussi ce film, si vous êtes du côté de Genève, à Vernier, en présence de Steve, le magasinier, qui sera là ce soir.
4:40 a.m. there goes the sound of my alarm, so I hit the snooze button for about 3 times, dragging myself out of bed, half asleep, half dead, thinking of the 8 hours of shit that I've got ahead.
Il y a beaucoup d'enfants pauvres dont les familles n'ont pas beaucoup d'argent. Alors je veux donner à ces enfants cette chance que je n'ai jamais eue.
Du street art aux musiques urbaines, comme on l'entend là avec Steve, ce magasinier fan de hip-hop. Il y a aussi toutes ces cultures qui viennent de la rue et qui bousculent les cultures institutionnelles, la culture presque officielle qu'on peut trouver un peu élitiste. Il n'y a pas d'hiérarchie à faire. L'important, c'est d'être sensibilisé pour vous, d'entrer dans cet grand univers qu'est la culture.
Bien sûr. C'est d'être ensemble, parce que la culture, elle permet aussi de rencontrer l'autre qui est différent de moi, de par sa classe sociale, de par son origine, par plein de choses. Et puis elle permet de s'émanciper de nos conditionnements. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement le fils de ses parents, on n'est plus seulement quelqu'un qui appartient à une religion, à quelque chose comme ça. On peut d'un coup s'inventer, se réinventer, devenir quelqu'un d'autre à travers des figures qui nous touchent, qui nous plaisent. Dans ce documentaire, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on voit cette petite ville désindustrialisée, abandonnée, petite ville pro-Brexit, qui pendant un an va se remettre à vivre ensemble. Les gens vont se remettre à s'asseoir dans le grand parc pour regarder un spectacle. Des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés vont déposer les enfants des uns ou des autres dans une activité commune. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser au fait que finalement, là, depuis ces derniers mois et tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, toutes ces manifestations, même dans les médias, je trouve qu'on n'a pas tellement parlé de culture et du pouvoir.
Même dans le
aussi.
Grand débat national non plus.
Hein, ouais, c'est ça. Je pense que la culture, elle peut panser beaucoup de plaies. Elle peut permettre aussi de rétablir du lien entre des gens qui ne se parlent plus. Parfois, le dialogue direct est impossible. Alors, par le truchement d'une pièce, regardez une pièce de théâtre, on parlait de théâtre tout à l'heure. Moi, ce que j'ai toujours trouvé magnifique dans une pièce de théâtre, c'est que d'un coup, vous êtes avec des gens que vous n'avez jamais vus et vous pleurez ensemble, vous riez ensemble. Et ça vous est jamais arrivé, vous sortez d'une pièce et vous regardez les autres spectateurs et puis vous avez l'impression qu'il s'est passé un truc entre vous, que vous vous connaissez. Et moi, je suis persuadée que la culture est une des réponses à ce qui se passe aujourd'hui en France et à cette difficulté à communier d'ailleurs aussi. Et voilà, peut-être qu'en l'absence de sacré, c'est peut-être la culture qui doit remplacer ça, quoi.
Et ce film, Northern Soul, pose
voilà,
aussi la question de ça et de l'accès à la culture. Parce
Exactement.
Qu'avec ce bus itinérant, la culture va devant la porte
oui, voilà, et comme vous disiez,
des habitants
de
cette
qui
cité.
Sont pas hiérarchisés. C'est-à-dire que ce petit garçon qui est bègue, qui vient d'une famille très pauvre et qui d'un coup va réussir à chanter, ce qu'il a réussi à conquérir est quand même extraordinaire. De la confiance en soi, le public, d'appartenir d'un coup à sa ville, d'être regardé, c'est très émouvant.
Invité de la grande table de ce jeudi, Leïla Slimani, écrivaine, haut représentant aussi, ou représentante personnelle à la francophonie, pour la France, nommée par Emmanuel Macron. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Scène Young Adult, le live, Bookroom, Brainstorm, Photobooth, le Book Quiz, bannir le gloomish du Salon du Livre, c'est le sens d'un appel qui est paru dans Le Monde le mois dernier, que vous avez co-signé, Leïla Slimani. Est-ce que c'est si grave, vraiment, parler dans ce texte d'une atteinte grave à une culture, à une pensée partagée par près de 300 millions de francophones? Est-ce que c'est pas un peu exagéré?
Oui, je vois ce que vous voulez dire quand vous dites exagéré, mais non, moi je crois pas que ce soit exagéré, parce que je pense que c'est très important quand même, surtout pour un salon du livre, donc pour un salon qui célèbre la littérature, qui célèbre le langage, c'est quand même notre matière de travail, nous on est des artisans, et voilà, et au lieu de travailler le bois ou la peinture ou que sais-je, nous on travaille avec ce langage dont on essaye jour après jour de célébrer la richesse, la beauté, la polysémie, donc je trouve quand même, si moi je trouve que ça peut être un peu tragique et extrêmement triste de donner l'impression qu'on n'a pas les mots pour dire. Alors que comme je vous disais tout à l'heure, moi je pense que par les mots, on peut soigner des blessures, on peut changer le destin des gens, on peut respecter l'autre. Donc c'est très important de respecter aussi notre langue, surtout quand on a les mots pour le dire en français. Donc pourquoi utiliser une autre langue? En revanche, je me mets pas du tout dans une posture de guerre contre l'anglais, que je trouve ridicule. J'adore parler l'anglais, c'est une langue que je trouve magnifique, donc j'ai aucun problème avec ça.
Voilà, surtout quand on est donc au Salon du Livre à Paris, qui s'ouvre ouvrira demain. Malgré votre engagement, malgré le grand discours d'Emmanuel Macron, une fois encore au 17e sommet de la francophonie, c'était à Erevan en octobre dernier, et malgré le changement de secrétaire général de l'OIF, on ne comprend pas toujours vraiment ce que la France veut faire de la francophonie.
C'est pas que la France veut faire, c'est la francophonie, elle se fait tous ensemble. Oui,
non, mais là, vous êtes la représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie, donc un peu la nôtre. Vous êtes notre Madame francophonie.
C'est ça, mais le problème, en fait, c'est que souvent, la francophonie a été vue comme une espèce de bras armé de la France et comme un moyen pour la France d'imposer des volontés. Aujourd'hui, d'abord, ce qu'on a essayé d'installer avec le président Emmanuel Macron, c'est de remettre un peu la France à sa place. De dire que la France, évidemment, elle a son rôle à jouer, mais elle n'est pas le centre et la centralité de la francophonie. Que vraiment, on veut faire avec les autres, et que chacun défend la langue française avec ce qu'il est, avec son histoire, avec ses particularités. Donc ça, d'abord, c'est très important.
Et alors ça, pratiquement, comment on fait avec les autres?
Ah bah d'abord, il faut leur montrer notre volonté de sortir de cette vision surplombante et un peu arrogante. Et je crois qu'on a reçu de la part à la fois des pays du Maghreb, de pays comme le Canada, de la Suisse ou de la Belgique, le sentiment, voilà, d'une certaine satisfaction vis-à-vis de la volonté de la France de mettre en avant d'autres façons de défendre la langue française, de défendre aussi le plurilinguisme. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'Organisation internationale de la francophonie n'est pas là seulement pour défendre la langue française, mais le fait que nous devrions parler le plus de langues possible. Dans un continent comme le continent africain, c'est fondamental. Moi, je viens d'un pays, le Maroc, qui est un pays plurilingue. C'est un pays où on parle l'arabe, qui est une langue officielle, mais on parle aussi le français, on parle le berbère, on parle l'espagnol, on parle le hassani. Dans la plupart des pays africains, à partir du moment où vous naissez, vous parlez plusieurs langues. Le roi Hassan II, bon, qui avait beaucoup de défauts par ailleurs, mais disait un analphabète, c'est quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue. Parce que au Maroc, par définition, vous parlez plusieurs langues. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument défendre. Et que la défense du français, la promotion du français ne doit jamais se faire au détriment des autres langues. Au contraire, elle doit toujours permettre de valoriser les autres langues. Donc c'est pour ça que dans des pays comme le Sénégal, dans des pays comme le Mali, on essaye de tout faire pour que l'OIF aussi soit là pour financer des programmes, pour valoriser les langues locales, pour créer des dictionnaires, des manuels, parce que c'est très important aussi de leur donner et de leur redonner toute leur valeur, toute leur beauté, et de les faire connaître partout.
Et donc ça vaut aussi pour la France, parce qu'on a souvent des Bretons qui nous écoutent.
Ça vaut aussi pour la France, bien sûr.
Ça vaut aussi pour une défense des langues régionales et de ce patrimoine.
Tout à fait, oui, bien sûr.
Un patrimoine linguistique.
Absolument.
Dans les rues d'Alger, comme d'Oran en ce moment, on entend autant de Français d'ailleurs que d'Arabes. Quels sont, vous, les mots et les slogans que vous avez entendus, qui vous ont marqué, ou de quelles aspirations pour vous ils sont le reflet?
Moi, bon, d'abord, je trouve qu'ils ont fait preuve d'un humour absolument extraordinaire. Et là encore, comme vous disiez, moi, je trouve ça magnifique qu'on fasse la révolution dans plusieurs langues. Et très souvent, vous entendez, d'ailleurs, quand il y a des interviews à la radio, ils parlent dans une même phrase, parfois en arabe, en français et en berbère, dans la même phrase. Et ça, c'est incroyable, cette plasticité. Ben, moi, évidemment, j'ai été très touchée et très émue par tout ce qui concernait les femmes, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de femmes dans ces rues d'Alger, dans ces rues d'Oran. Comme l'a très bien dit Kamel Daoud, une émeute, c'est quand il n'y a que des hommes. À partir du moment où il y a des femmes, c'est une révolution. Et on voyait ces femmes magnifiques avec des pancartes disant qu'il fallait aussi, que cette révolution devait être aussi l'occasion d'une révolution féministe en Algérie, de transformer les lois, de donner plus de place aux femmes dans l'espace public. Donc j'espère vraiment, et je suis optimiste, parce que les féministes algériennes ont prouvé à maintes reprises qu'elles étaient extraordinaires, que ce sera l'occasion pour elles de faire aussi la révolution des femmes.
Vous en parlez avec le sourire, il n'y a pas la peur que cette révolution avorte, que cette révolution soit écourtée par un agenda politique qui n'est pour l'instant pas encore aux mains des manifestants?
Bien sûr qu'il y a la peur, évidemment. Il y avait la peur aussi en 2011 quand il y a eu les révolutions en Égypte et en Tunisie, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que la peur, c'est toujours mieux que cette espèce de mort lente, que cette espèce d'agonie que vivaient ces pays, que ce soit la Tunisie de Ben Ali, que ce soit l'Algérie de Bouteflika. C'était vraiment, on avait le sentiment de pays qui se mouraient sur place, d'une jeunesse qui était confrontée à comme seule possibilité, celle de partir clandestinement ou finalement d'aller dans les bras des islamistes. C'était désespérant. Donc au fond, je préfère cette inquiétude au désespoir. Parce que dans le désespoir, il n'y a rien, il n'y a même pas d'inquiétude, il y a juste un avenir tout noir. Donc là, au moins, il y a la possibilité de quelque chose, et ça, c'est merveilleux.
La force d'une jeunesse en Algérie, mais aussi en France, présentée samedi à 18h30 au Grütli, à Genève. La jeunesse de l'après Charlie, de Nuit debout à la présidentielle. Elle s'est emparée des nuits, et c'est le parti pris d'un autre documentaire présenté à Genève, L'époque de Mathieu Barrère. Une traversée nocturne pour tenter de mieux entendre, dans le silence de la nuit, les rêves, les cauchemars, l'ivresse, l'oubli, les espoirs de ceux qui ont moins de 20 ans. Extrait.
Connaissez-vous le poème de Aimé Césaire qui parle des volcans? Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent, il y a des volcans à la dérive, il y a des volcans ivres. J'ai oublié après. Mais c'est de la balle, hein, Aimé Césaire, c'est un putain de nègre. J'adore ce putain de nègre, instruyons les gros. J'adore ça. Nègres. Ouais, mais je nie. Tu sais ce que je fais en disant ce mot? Je lui retire sa connotation négative que l'homme blanc a voulu lui attribuer en masse. Ça s'appelle contourner le stigmate, mon négro. Ça va être ça, ma nouvelle signature, stigmate. Ça frappe, non ?
C'est intéressant comment les mots vivent et évoluent aussi avec leurs usages. Un mot comme le mot nègre, qu'il était totalement interdit de prononcer, comme le mot race aussi, ces dernières années, notamment en France. Là, il y a une jeunesse, des jeunes qui se le réapproprient pour, comme il dit, contourner le stigmate. Aujourd'hui aussi, on parle des personnes racisées. Donc, on a un langage qui est vraiment en train d'évoluer et qui est à l'image de l'époque et des changements de l'époque pour vous, Leïla Slimani.
Mais c'est ça qui est magnifique dans le langage, c'est que le langage est toujours plus rapide, toujours plus fort, toujours plus vif que la société elle-même. Nous, on fait toujours que courir derrière la langue. Quand on est écrivain, on se rend compte que la langue, elle va toujours plus vite que nous. On ne fait que la rattraper. Et ça, c'est absolument magnifique. Alors, ce documentaire qui est très, très intéressant, moi, m'a donné un terrible coup de vieux, parce que d'un coup, on ne voit que des gens entre 15 et 20 ans. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'en Algérie, il y a ce mélange de l'arabe et du français. Mais en fait, c'est la même chose, Place de la République. Place de la République, vous entendez ces jeunes Français qui parlent et qui utilisent des mots qui sont des mots arabes, qui sont des mots wolof, qui sont des mots de swahili, de plein de langues différentes, et à mon avis qui ne se rendent même pas compte, enfin qui ne savent même pas forcément d'où vient ce mot, qui sont des mots qui sont entrés dans la langue française. Donc cette plasticité, c'est magnifique.
Même optimisme chez eux dans ce film, l'époque.
Oui, il y a quand même beaucoup d'optimisme. Ils parlent beaucoup d'amour, ils parlent beaucoup de famille, ils parlent beaucoup de passion, et ils ont envie de donner du sens à, ils ont envie de donner du sens à leur vie, et ils ont envie de vivre ensemble. Il y a cette idée quand même du collectif, de trouver les moyens de vivre ensemble en paix. Il y a beaucoup de questionnements sur la violence. À quoi ça sert la violence? Est-ce que il faut être violent pour obtenir ce qu'on veut, ou au contraire, il n'y a que la paix qui marche? Donc ils se posent des questions très pertinentes et très forte.
Merci beaucoup à vous, Leïla Slimani. Donc, en ce moment, se tient à Genève un festival où on peut voir plein de films qui nous parlent de beaucoup de combats actuels et toujours nécessaires. C'est le Festival du film international sur les droits humains, le FIFDH, dont la 17e édition se déroule actuellement jusqu'au 17 mars. Vous avez présidé ce jury documentaire. Bientôt, il y aura les récompenses, il y aura un heureux élu, et on pensera à vous dire qui a gagné ici autour de cette grande table. Merci beaucoup à vous, et un grand merci, merci à toute l'équipe. Demain, pour ceux qui le peuvent ou le souhaitent, je vous rappelle donc qu'on vous attend à partir de midi au Salon du Livre Porte de Versailles à Paris pour une grande table des livres en compagnie de Maïlys de Kerangal, Jérôme Ferrari et Johan Sfar. Et ça va vous faire rire, Leïla Slimani. On va essayer de dresser une petite bibliothèque idéale en tâchant de relire les morts. Ça y est, ils reviennent pour comprendre les vivants. Des conseils de lecture avisés de la part de nos invités. Puis, comprendre l'Europe par les livres, ce sera avec notre invité Bernard Guetta, et deux voix des médias et de la jeunesse, Salomé Saquet de la revue en ligne Le Vent se lève et la youtubeuse Tatiana Jarzabek. Merci à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour la grande table culture, avec l'aide précieuse, toujours très précieuse, de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Sonia Le Glen avec Morgane Danon.